Et c'est bonjour. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Galates, le chapitre 5. Galates, chapitre 5. Verset 16a. Galates, chapitre 5, verset 16a. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le titre de notre prédication ce matin, c'est « Le choix d'une vie idéale ». Le choix d'une vie idéale. Et depuis la création de l'homme, l'homme était destiné à choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Séduit par Satan, le tentateur, il a fait le choix de sa condamnation. Et dans la lettre de Paul aux Romains, il a expliqué dans Romains chapitre 5, le verset 12, il dit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est répandue dans tout le monde, car tous ont péché. » Et dans le même chapitre, Paul continue dans le chapitre 6, verset 23, pour dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce chapitre, il y a deux voies. Nous sommes en présence de deux voies. Nous sommes en présence de deux vies. La vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Depuis avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 4 et chapitre 2, verset 10. Donc, premièrement, la vie selon la chair. La vie selon la chair est diamétralement opposée à celle de l'esprit. On voit la lumière et les ténèbres. Paul a donné 15 caractéristiques de la vie selon la chair dans le même chapitre 5 du verset 19 au verset 21. Et le thème central de l'épître aux Galates est la justification par la foi. À l'église Éphèse, Paul dit dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans le verset 9, il dit, « Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. » Alors aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des gens qui donnent, qui font des œuvres pour avoir le salut, pour aller au ciel. La Bible dit, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Et le seul moyen pour l'avoir, c'est de croire en son Fils, Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils pour mourir. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Or, quelques hommes venus de Judée, arrivé à Antioche, il enseignait les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça, c'est écrit dans Actes chapitre 15, le verset 1er. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Ce que le Seigneur Jésus nous demande ce matin, c'est une circoncision de cœur. Car c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, l'immoralité, l'hypocrisie, la haine, l'impudicité, les faux témoignages, les calomnies, toutes ces mauvaises choses viennent du cœur. Et le cœur est enflé d'orgueil. Christ seul peut changer le cœur de l'homme. Et Jérémie l'a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Sinon celui qui pénètre le cœur, celui qui pénètre la pensée de l'homme. C'est Jésus et Jésus seul. Donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir de la chair. La vie selon la chair est souillée de toutes sortes de débauches. Les hommes changent la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré la créature au lieu le créateur. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir pour les autres. C'est une vie abominable, femme avec femme, homme avec homme, et l'Église n'en est pas épargnée. L'Église n'est pas épargnée de ce qui se passe aujourd'hui. La vie matrimoniale que Dieu approuve est hétérosexuel, où l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. marcher selon la chair coupe la relation avec Dieu qui ne tolère pas le péché parce qu'il est trois fois saint. Le Dieu que nous servons est trois fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et le péché est le cancer qui gangrène notre société. L'Église de Jésus-Christ ne manque pas aujourd'hui de chrétiens idolâtres. Oui, de chrétiens idolâtres. Toute personne ou toute chose qui prenne la place de Dieu dans nos cœurs sont considérées comme Dieu. Or, dans nos cœurs, c'est Dieu qui devait être en premier. Depuis la prière, notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, les choses périssables prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Et ce sont des idoles. Notre Dieu est jaloux. Il réclame exclusivement notre adoration et nos louanges. Nous aimerons le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Est-ce que c'est comme ça ce matin pour chacun de nous? Pourtant, nous donnons plus de valeur à nos iPhones, à nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos séries, nos vêtements et nos festivités, toutes ces choses sont là en lieu et place de l'adoration de Dieu. Dans le chant tout à l'heure, nous avons vu la révérence qui est due à Dieu, le respect. Pour sa souveraineté et pour sa majesté. Est-ce qu'il y a une chose ou une personne qui mérite la gloire de Dieu? Et voilà pourquoi il est jaloux, parce que nous donnons cette gloire aux autres choses, aux autres personnes. Il n'y a pas de temps pour venir à l'église, il n'y a pas de temps pour venir dans les études, mais il y a du temps à passer devant l'écran, il y a du temps à passer sur son portable, il y a du temps à passer dans les séries. Il est où Dieu? La Bible compte 613 lois qui concernent notre vie sociale et notre vie morale. Non seulement l'idolâtrie dans le monde ou chez nous, mais il y a aussi la magie, la sorcellerie. Toutes sont pratiquées à travers le monde. Les voyants, les médiums, les astrologues ne manquent pas. Vous voulez savoir ce qui va arriver contre vous pour vous demain, ben, vous entendez une publicité, vous voyez votre médium. Nous serions étonnés de voir des hommes et des femmes replacés dans notre société qui s'abaissent devant un devin pour savoir comment sera demain. Il y a quelques semaines, un maire en France a été manipulé par une voyante. La femme a trafiqué sa voix, se faisant passer pour une créature surnaturelle. L'homme a déboursé plusieurs centaines d'euros au profit de la femme parce qu'elle lui a donné ce qui va arriver, votre profit. Et aujourd'hui, il est incarcéré pour corruption. C'est une leçon, non seulement pour chacun de nous, et ce message, nous pouvons le transmettre aux autres qui font trop de confiance à des créatures qui ne peuvent même pas voir ce qui va arriver pour eux demain. Vous ne pouvez pas voir ce qui va arriver pour vous. Comment peut-on voir ce qui arrivera pour les autres? Et c'est depuis quand nous étions si bons pour voir l'intérêt des autres avant notre intérêt? Depuis quand? Et le monde fait son chemin de cette façon. Et ce, personne ne peut prédire son avenir et celui des autres. Personne. Seul Dieu peut prédire l'avenir. Tout le reste est mensonge. Vous avez l'habitude d'entendre les horoscopes. Comment va être la journée aujourd'hui? Quelle est votre chance? Avec Jésus, c'est la grâce qu'il y a. Tout est grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce. Nous avons la vie, c'est par la grâce. Nous sommes en santé, c'est par la grâce. Nous avons un boulot, c'est par la grâce. Il n'y a pas de chance. Et ce matin, est-ce que nous marchons selon l'esprit? Ah, c'est la grande question. Est-ce que nous marchons selon l'esprit? Il y a beaucoup d'assemblées dans lesquelles on trouve des membres de l'Église qui sont manifestés pour dire « Je suis rempli ». Parce que c'est à ce moment l'Esprit vient. Pendant qu'ils chantent, pendant qu'ils adorent, hein? Mercredi soir, ici, là, avec Pasteur David, il y avait une étude enrichissante, hein, concernant le Saint-Esprit. Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, au lieu de nous enivrer de vin. Mais la façon dont beaucoup de frères et sœurs manifestent le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons parlé beaucoup mercredi soir selon des gens qui parlent en langue. On arrive même à dire si on ne parle pas en langue, on n'est pas sauvé. Mais où est-ce qu'on a vu ça, mes frères et sœurs? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour mériter le salut? Non. Il suffit de croire en Jésus-Christ. C'est la foi seule. C'est Jésus-Christ seul. C'est la grâce seule qui sauve. Personne d'autre. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Les enfants de Dieu doivent marcher selon l'Esprit. Toute notre vie en dépend. Il existe un contraste profond entre une personne qui marche selon la chair et celle qui marche selon l'Esprit. C'est comme une chenille transformée en papillon en tant que croyant régénéré. Nous connaissons tous et nous voyons tous une chenille changée en papillon. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chacun de nous ce matin, qui déjà ont les deux pieds, tous les corps, en Jésus-Christ, nous avons deux natures. Nous ne dépendons plus de nous. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous guide. Nous sommes appelés à manifester les œuvres de l'Esprit. Nous portons le fruit de l'Esprit qui nous met en communion parfaite avec Christ. Paul a énuméré 9 vertus qui forment un tout. C'est dans le verset 22. Galates 5, verset 22. Et ces vertus nous changent et nous rendent capables de glorifier Dieu dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, nous glorifions Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais il n'est pas concevable que celui qui a reçu le Saint-Esprit de prier pour demander le Saint-Esprit. Comment ça? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes pas fils de Dieu. Le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et c'est Saint-Esprit qui a été promis. Jésus, avant d'aller, il dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce matin, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas donner gloire à Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être non plus les enfants de Dieu. Le monde entier est à la recherche de ces vertus qui sont en Christ. Et oui, l'amour, la joie, la paix. Aucune puissance, aucun pouvoir, Aucune autorité ne peut donner la paix, la joie, l'amour à ce monde en péril. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Tout le monde cherche la paix. Nous marchons, nous tournons, nous voyageons, mais il y a toujours cette peur qui nous intrigue. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Selon 1 Jean chapitre 4, le verset 9. Demeurez dans l'amour de Jésus. Et si nous sommes là ce matin, c'est par cet amour. Si le monde pratique cet amour agapé, notre société n'aurait pas connu tous ces crimes, ces atrocités, ces cadavres et ces méchancetés. Tout ça est arrivé parce qu'il n'y a pas d'amour. Jésus dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que cela peut se faire? C'est pour dire juste où nous devons aller pour prouver cet amour. Parce que personne d'entre nous ne peut faire soi-même du mal. Se frapper. Non. Et si nous aimons les autres comme nous nous aimons, la vie serait belle. Une vie de paix. Hein? Une vie d'amour où il n'y aura plus de peur. Jésus dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Selon Jean chapitre 15, verset 11. Et ce matin, notre assemblée a montré cette joie à travers nos cris, à travers la louange, à travers les chants. Cette joie se manifeste au milieu de nous parce que nous nous aimons les uns les autres. Et David a raison quand il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et personne ne peut vivre en paix si ce n'est ceux qui font la paix avec Christ. Si vous ne faites pas encore la paix avec Christ, vous ne pouvez pas avoir la paix. Mais nous, ce matin, qui avons fait la paix avec Christ, nous avons la paix du cœur. Nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que nous avons cette paix en nous ce matin? David dans Psaume, 30, Psaume chapitre 4, le verset 9, il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Mais ça, il y a des gens aujourd'hui qui payent beaucoup d'euros. Dans chaque porte de sa maison, il y a un homme avec une arme pour lui donner la sécurité. Et pourtant, chez nous, notre porte n'est même pas solide pour supporter un coup de poing. Nous sommes en paix. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là. Nous sommes en paix parce que l'Éternel est devant la barrière, il est derrière la porte et il est autour de nous par ses anges. David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pourquoi? Pour les arracher du danger. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à avoir peur. Parce que nous avons la sécurité en Jésus-Christ. Il est toujours là. Jésus dit à ses disciples, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix que l'homme ne peut donner. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont sauvés portent en eux ces vertus de patience, de bienveillance, de douceur et de tempérance. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, voici ce que Paul nous a dit. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et c'est étonnant d'entendre un frère, une sœur sauvée qui dit, je n'ai pas de patience. La patience est une qualité de Dieu. Donc, ce qui signifie, nous devons être patients. Nous sommes patients pour attendre le retour de Jésus-Christ. Ah, dans la rue, on dit souvent, ça fait 2000 ans, ça fait combien d'années, on parle de ce retour, mais c'est quand? Mais nous sommes patients, car ça viendra quand même. C'est notre espérance certaine. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sinon, vous et moi, nous ne serions pas là. La parole de Dieu est oui. Et amen. C'est la vérité absolue. Jésus-Christ reviendra comme il est né, comme il est mort, comme il est ressuscité. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Parce qu'il n'est pas là pour mentir. Nous sommes exhortés à mener une vie de sainteté, d'honnêteté, de chasteté et de fidélité. Parce que notre Seigneur, il est fidèle. Le choix d'une vie idéale est indispensable pour porter du fruit, comme il est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 16. Nous voyons dans Jean chapitre 15, verset 16, eh bien, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Est-ce que nous portons ces fruits ce matin? Remarquez bien, dans le passage, il ne parle pas des fruits. Il dit le fruit de l'esprit. Et après, la liste vient. C'est un tout. Les mathématiciens ou bien les ceux qui font la géométrie, ils disent c'est un ensemble contenant plusieurs éléments. Les disciples étaient choisis par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est pour nous ce matin. Nous sommes choisis par Dieu, pourquoi? Pour non seulement sa gloire, mais pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. À Ananias, le Seigneur, il lui parle concernant Paul. Dans Actes chapitre 15, dans Actes chapitre 9, pardon, et les versets 15, dans Actes chapitre 9, verset 15, l'Éternel dit à Ananias, il dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Nous sommes choisis par Dieu. Nous avons une mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ où que nous soyons. Est-ce que c'est fait? Nous pouvons prêcher l'Évangile sans dire rien à personne. Comment? Par notre comportement, parce que nous disons, notre façon d'agir. Le message de l'Évangile est prêché à travers la façon dont nous accueillons les autres. La vie nous réserve souvent des surprises dans les choix. Nos choix sont-ils pertinents? Le choix d'une vie, le choix d'un ami, le choix d'une destination. Il y a toujours un choix. Même quand on va au magasin, il y a un choix. Le choix d'un mari, le choix d'une femme, ce choix répond-il à la satisfaction escomptée? On peut choisir une Jézabel. Hein? On peut choisir un Saül. Mais la même question est posée, est-ce que c'est le bon choix? Cette Jézabel, ce Saül, nous savons tous ce que font ces personnes. Ce matin, je vous dis une chose. Si vous et moi, nous avons fait un mauvais choix, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu, il est là pour approuver. Parce que le peuple Israël avait son roi qui prend soin de lui, son roi qui est là avec lui en toutes circonstances. Mais il dit non, il veut avoir un roi. Un roi costaud, un roi beau gosse. Mais non. Eh bien, Dieu lui a donné, le roi Saïd, et nous savons tous ce que le peuple a subi. Et peut-être ce matin, il y a des maris, des femmes qui souffrent à cause des mauvais choix qui ont été faits. Il suffit de remettre tout entre les mains de Dieu, puisque Dieu ne veut pas la séparation. Ah, nous souffrons parce que nous avons signé, oui, nous ne pouvons pas séparer parce que Dieu ne permet à personne de couper la relation entre deux personnes unies. Voici ce que Moïse dit. Regardons dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Moïse dit au peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est un engagement. Hein? C'est un engagement. Et Josué est allé dans le même sens avec Moïse. Sinon, lisons Josué, chapitre 24. Josué 24, les versets 14 et verset 15. Josué 24, verset 14 et verset 15. Josué dit au peuple, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est la même décision pour chaque famille ce matin? Pour chaque père de famille, pour chaque mère de famille, pour dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Le meilleur choix, le choix idéal que nous pouvons faire, c'est le choix de Jésus. C'est Jésus qui sait tout. C'est Jésus qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui soulage. C'est lui qui nous comprend dans toutes les circonstances. Il est là. Et il est fidèle. En lui, il y a la vie. Parce que Jésus est la vie. Dans Jean chapitre 3, 36, si nous choisissons la vie, Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas choisi Jésus, non seulement il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jésus, c'est lui qui donne la vie. Et il donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, verset 28, c'est lui qui dit, « Je donne à mes brebis la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Nous avons la sécurité éternelle là où nous sommes en Jésus-Christ. En toutes circonstances, il est là et il est prêt à nous délivrer de tout. Parce que c'est en lui qu'il y a le salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ, homme. Paul demande à l'église d'Éphèse de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon l'Esprit. Est-ce que nous marchons selon l'Esprit? Dans notre même chapitre 5, Paul dit, si nous marchons selon l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et quand nous marchons selon l'Esprit, nous sommes en communion avec Dieu. Quand nous marchons selon l'Esprit, nous faisons la différence avec celui qui marche selon la chair. Quand nous marchons selon l'Esprit, nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ qui sauve les autres qui sont dans les ténèbres. Je voudrais partager, avant de partir, cette prière de François d'Assise. Il dit, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a des doutes, que je mette la foi. Au cœur du désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a tristesse, que je mette la joie. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Seigneur nous bénisse.